Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30, en direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 17 mars 2025, il est 11h30, c'est la chronique du groupe Fred Zeller avec Jean-Louis. Aujourd'hui, je vous propose un programme un petit peu chargé. Nous allons commencer un dossier important sur l'Algérie. Auparavant, deux annonces qui sont importantes. La première annonce, c'est une mobilisation pour une manifestation qui va se tenir samedi 22 mars à Périgueux devant l'Arbre de la Liberté, rassemblement et manifestation, donc contre le racisme et l'extrême droite, contre tous ceux qui propulsent l'extrême droite. Et ça se tient donc, je rappelle, 11h devant l'Arbre de la Liberté à Périgueux. C'est une journée nationale à laquelle appelle la Fédération nationale de la libre-pensée et localement le groupe Fred Zeller. Donc 11h. Devant l'Arbre de la Liberté à Périgueux, samedi 22 mars. Deuxième information, j'en ai déjà parlé, mais je ferai un rappel à chacune de ces émissions jusqu'au 5 avril. C'est donc la soirée qui est organisée par le groupe Fred Zeller le 5 avril, salle de la Rivière à Montancé, Montreuil-Montancé, à la salle de la Rivière. C'est une soirée blues avec une conférence débat, le blues et les combats d'émancipation des Noirs américains. Conférence débat introduite par Philippe Besson, libre penseur, rédacteur de l'Idée Libre et coordinateur du numéro de l'Idée Libre autour du blues, qui nous a donné l'idée d'organiser cette soirée. Cette conférence débat se prolongera avec une illustration musicale par le chanteur-guitariste Nikos et se prolongera enfin avec un buffet dînatoire. Et pour participation à ces frais d'organisation, le buffet et le concert, nous demandons 20 euros pour l'ensemble donc, de cette soirée et la donc, participation aux frais pour le concert et le buffet dînatoire. Donc c'est le 5 avril 2025 à partir de 18h. La réservation est tout à fait conseillée et même obligatoire, je dirais, en appelant le 06 01 88 87 62. Je répète, 06 01 88 87 62 avant le 31 mars. Donc il reste encore un petit peu de temps, mais faites vite parce que la salle n'est pas illimitée au niveau de ses capacités. Voilà, vous pouvez également écrire par mail donc à groupe-fred-zeller@lpdordogne.fr pour indiquer donc votre souhait d'être inscrit. Votre inscription sera confirmée, gérée à réception donc du règlement que vous pouvez envoyer par la poste, par exemple, à groupe Fred Zeller, Maison des Associations de Périgueux, 12 cours Fénelon, 24 000 Périgueux. Voilà. Donc, pour cette soirée, je reviendrai en détail sur cette soirée, sans doute dans une prochaine chronique. Donc, nous en arrivons au dossier Algérie que nous ouvrons aujourd'hui. Enfin, on a déjà parlé de la question de l'Algérie, mais là, les choses, il y a une accumulation de faits qui sont particulièrement inquiétants. Tout le monde, je pense, est au courant de l'éviction de Jean-Michel Apathy après les déclarations qu'il a faites sur les massacres qui ont lieu, que l'armée coloniale a opéré en Algérie et qui lui a valu d'être évincé de la rédaction de RTL. Alors, un journaliste de Mediapart, Younes Abzouz, a écrit un article intéressant et qui va un petit peu plus loin que la simple répression contre, qui est tout à fait condamnable, bien évidemment, de Jean-Michel Apathy, mais sur la question donc de la position des médias actuellement. Donc après sa mise en retrait d'une semaine pour des propos sur l'histoire coloniale en Algérie, Jean-Michel Apathy a annoncé qu'il ne retournerait pas sur RTL. Le journaliste voit dans son camp personnel l'illustration du triomphe du révisionnisme historique dans le discours médiatique et politique. Donc voici ce qu'écrit Younes Abzouz. Je ne reviendrai pas écarté de l'antenne par RTL pour avoir simplement rappelé les crimes coloniaux commis par la France en Algérie, Jean-Michel Apathy a finalement annoncé sur X qu'il mettait fin à sa collaboration avec la station, propriété du groupe Bertelsmann. Initialement, il a été prévu que le journaliste reprenne le travail après avoir purgé une suspension d'antenne d'une semaine. Il en a finalement décidé autrement. J'ai d'abord trouvé que RTL avait géré la situation avec beaucoup de tact et de respect à mon égard, réagit l'éditorialiste auprès de Mediapart. Puis j'ai pris conscience, en étant absent de l'antenne pendant une semaine, qu'y retourner, c'était convenir que ma mise à l'écart était justifiée et que j'avais donc fait une erreur, commis une faute. Et ça, je ne peux aller jusque-là. Ce serait brouiller un message qui me semble important. La direction de RTL a pris acte dimanche de cette décision. La polémique a éclaté le 25 février lorsque Jean-Michel Apathy débattait dans la matinale de RTL de la brouille diplomatique entre la France et l'Algérie en présence de Florence Portelli, la vice-présidente LR du Conseil régional d'Île-de-France. Au cours de la discussion, le journaliste a tenté d'expliquer les tensions persistantes entre les deux pays, invoquant les massacres d'Algériens jamais reconnus par la France, et ça est une citation de Jean-Michel Apathy, pendant la phase de conquête à partir de 1830. Il a ensuite estimé que les relations seraient peut-être différentes si la France présentait des excuses pour 130 ans de massacres, de meurtres, de paupérisation d'un peuple d'une violence incroyable, 130 ans d'occupation. Fin de citation. Chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane, c'est Jean-Michel Apathy qui poursuit cela, donc, c'est-à-dire le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Finit-il par ajouter, donc Jean-Michel Apathy. Le 10 juin 1944, ce bourg du Limousin, donc Oradour-sur-Glane, est décimé par une partie de la division Waffen-SS d'As Reich. On n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie, a très vite rétorqué Thomas Toto, le présentateur de la matinale de RTL, tous les matins aux côtés d'Amandine Bégaud. Mais on s'est comporté comme des nazis, a-t-il interrogé. Les nazis se sont comportés comme nous, lui a alors répondu Jean-Michel Apathy. Pas rancunier vis-à-vis de RTL, le journaliste dit comprendre la réaction de la station et l'émotion suscitée par ses propos parmi les auditeurs et les auditrices. Je vois bien que ce n'est pas un discours qui est majoritaire ou qui est tenu régulièrement dans les médias, où la culture de la négation de l'histoire domine. Fin de citation donc de Jean-Michel Apathy. Pour appuyer son propos, il cite entre autres les déclarations récentes de Marine Le Pen, qui déclarait dans un entretien sur LCI fin janvier que, citation, « venir dire que la colonisation était un drame n'est pas vrai », énumérant les infrastructures et le capital apportés par la France en Algérie et qui, selon la députée d'extrême droite, nouvelle citation, aurait dû lui permettre de se développer et de devenir la Norvège du Maghreb. Il est là le problème. L'opinion publique ne peut pas évoluer sur cette question si les dirigeants importants de ce pays ne l'évoquent jamais ou, quand ils l'évoquent, le font de manière aussi scandaleuse, déplore Jean-Michel Apathy, donc après ces propos de Marine Le Pen. Ne ratant d'ailleurs jamais une occasion d'instrumentaliser à des fins électoralistes les mémoires vives de la colonisation de l'Algérie, des élus de droite et d'extrême droite en ont profité pour jeter du sel sur les plaies, à l'instar du président du RN Jordan Bardella, qui fustige, citation, « une odieuse falsification de l'histoire et une insulte à tous les rapatriés d'Algérie », ou son allié, Éric Ciotti, pour qui, citation, « Jean-Michel Apathy a endossé le rôle d'un prédicateur algérien ». Fin de citation. Loin de prendre le parti des faits face au révisionnisme historique d'une partie de la droite et de l'extrême droite française. Et alors que nombre d'historiens, comme dans cette tribune, ont donné depuis raison à Jean-Michel Apathy, RTL a justifié la mise à l'écart de son éditorialiste. D'habitude, le mercredi, Jean-Michel Apathy est avec nous pour débattre, avait déclaré Thomas Otto ce 5 mars à l'antenne de RTL Matin, juste après 9h. « Ce matin, Jean-Michel n'est pas là », poursuit-il. « En effet, mardi dernier, lors d'un débat face à vous, Florence Portelli, Jean-Michel a effectué un parallèle entre certains actes commis pendant la colonisation de l'Algérie et des crimes nazis. Une comparaison que la direction considère inappropriée et qui a choqué beaucoup, beaucoup d'entre vous. » Il n'est pas inutile de rappeler que RTL accueillait régulièrement sur son antenne Éric Zemmour comme chroniqueur politique entre 2010 et 2018. En dépit des nombreuses condamnations pour provocation à la haine raciale et de l'opposition farouche de la rédaction, la direction de RTL avait continuellement soutenu le polémiste. La radio avait d'ailleurs reçu à 2 reprises des mises en garde du régulateur des médias pour des propos tenus par le patron du parti d'extrême droite, Reconquête. « J'ai toujours pensé qu'il y avait 2 poids 2 mesures », observe Jean-Michel Apathy. « Dieudonné et Alain Soral, ce sont des antisémites et ils ont été légitimement écartés de l'antenne pour cela. Quelqu'un comme Éric Zemmour, qui a été condamné par la justice française pour incitation à la haine raciale ou à la haine religieuse, a au contraire trouvé des promotions dans les médias. » Fin de citation. Selon le journaliste, qui officie également dans l'émission quotidien sur TMC, l'impossibilité d'aborder sereinement le sujet de la colonisation en Algérie tient en partie son origine dans, citation, « des peurs très anciennes ». La peur de l'islam, la peur des Arabes, mais aussi le regret, la nostalgie de l'époque où la France était grande et forte, tout cela est refoulé et se réactive à travers l'actualité, analyse Jean-Michel Apathy. L'éditorialiste tient toutefois à préciser que son départ de RTL se fait sans animosité ni agressivité. Toujours est-il que la station, qui prend acte de sa décision, va devoir lui trouver rapidement un remplaçant. Dans tous les cas, le sort de son prédécesseur ne manquera pas de lui servir de leçon. Voilà, donc ça c'est la fin de l'article qui a été publié donc sur Mediapart, rédigé par Younes Abzouz le 9 mars dernier. Et un autre article, toujours sur Mediapart, cette fois dans le club Mediapart, a été publié. C'est un article de Jacques-Marie Bourget, qui est un journaliste international et qui a donné son autorisation à la Fédération nationale de la libre-pensée d'utiliser ce texte comme bon semblera à la libre-pensée. Et donc, nous profitons de cette autorisation de Jacques-Marie Bourget, que nous remercions vivement, parce que ce qu'il a écrit, c'est assez formidable. Je vous laisse en juger. Donc, c'est publié le 15 mars, hein, c'est tout récent. Et le titre, c'est « Dans les grottes d'Algérie, l'armée française n'a gazé que des poux ». Jean-Michel Apathy a lancé une grenade dans la vitrine du mensonge. Celui qui perdure sur le comportement criminel de l'armée française en Algérie, comme l'usage d'armes chimiques. Ceux qui s'indignent ou s'étonnent en apprenant qu'en Algérie, de Bugeaud à Molay, Mitterrand, De Gaulle, on a gazé des enfants, des femmes et des hommes dans des grottes de montagne en Kabylie, dans les Aurès ou toute autre cavité, c'est qu'ils n'ont rien compris. 70 ans après les crimes, si la mémoire française reste sereine, c'est que l'acte était justifié. Ces êtres-là, asphyxiés, brûlés, n'ont jamais été admis au rang des humains. Alors pourquoi un remords ou un pardon ? Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, horreur créée par le régime de Vichy, nous a éclairé sur cette mécanique de la barbarie. Évoquant l'apocalypse de l'Holocauste, il a déclaré « À Auschwitz, on n'a gazé que des poux. » Fin de citation. En réalité, dans les grottes et cavités algériennes, on ne tuait pas de vrais hommes. Pour conforter cette philosophie du crime, nous avons aujourd'hui l'exemple de Gaza, où plus de 50 000 non-humains ont aussi été écrasés dans l'indifférence. Comme tout homme qui se révolte contre son envahisseur, son colon, Jean Moulin fut en son temps un terroriste, entre guillemets. Les révolutionnaires du FLN n'ont pas échappé à la même estampille. Citation. Ces gazés, tués comme des mouches, n'étaient que des terroristes. Des nuisibles éliminés au flitox. Des assassins ayant le goût de la métaphore ont même qualifié ces abattoirs humains d'Algérie de « contraception tardive ». Les victimes du 17 octobre 1961 à Paris étant, elles, noyées dans l'eau purificatrice de la Seine. L'histoire continue d'être muette. Et ce sont maintenant les indignés des morts chimiques de Halabja, en Irak, en 1988, qui interdisent la diffusion du documentaire « Algérie, section armes spéciales », film parfait, pédagogique, au contenu calme et équilibré, pourtant programmé sur France 5 et censuré. Depuis le film qu'Alain Resnais a consacré en 1959 à l'apocalypse atomique, nous savons tous que l'on n'a rien vu à Hiroshima. Dans les grottes d'Algérie aussi, la fumée et les gaz ont aveuglé la mémoire française. Nous n'avons rien vu. Il ne s'est rien passé. Pourtant, la France est experte à dénoncer les crimes, ceux des autres, commis par des bourreaux d'ailleurs, jamais les siens. Quand un citoyen bleu-blanc-rouge s'est risqué à lancer l'alerte au temps où l'Algérie était la France, et je ne cite que Maurice Audin et Fernand Yveton, mais tous leurs amis furent égaux en héroïsme, ils furent assassinés. 50 ans plus tard, le criminel Ossarès pouvait, en grand-père peinard, déguster les fruits de mer à la coupole. Pourquoi la France, sans doute, la bouche trop pleine d'étouffants droits de l'homme ne peut parler de ses propres crimes ? Il est faux de croire que ce silence n'est que le produit d'une omerta imposée par le lobby militaire. Qui, du Pétain de 1917 assassinant les poilus mutins au gazage, torture et assassinat d'Algérie, interdirait l'examen des atrocités ? Si l'armée pousse à l'oubli, c'est le monde politique, presque dans son ensemble, qu'il faut accuser de cette complicité de crime. Quel parti peut vivre sans se hausser sur une histoire héroïque, sans accroc à la bannière ? Nous ne fûmes jamais bourreaux, jamais collabos. Piochés dans les blessures béantes de la guerre d'Algérie, C'est dire que François Mitterrand a laissé couper 45 têtes sans lever le pouce pour sauver ses vies de la guillotine. C'est dire encore que Mollet, le même Mitterrand, et leur Robert Lacoste, l'ignominieuse clique et ses fillots, ont conduit cette guerre pendant 4 ans avec des coups de pouce des partis chrétiens. Comment accuser un complice de crimes de guerre, devenu président abolitionniste, sans désespérer ses militants de gauche convaincus d'être les enfants naturels de Jaurès ? Le Parti communiste étant aux heures de guerre le seul à protester, souvent mollement, contre l'opération de maintien de l'ordre, pour reprendre le terme officiel, algérienne. Le PCF laissant ses militants tenir individuellement l'honneur, puisque le Parti communiste algérien, soi-disant autonome, avait la charge de la lutte sur son propre terrain. La droite aussi se sait honteuse des crimes d'Algérie et préfère laisser l'histoire au creux de sa tombe et les boîtes d'archives sous scellés. Parlons du rôle de la démocratie chrétienne et de sa peste MRP. Parlons de Giscard et de ses bons amis de l'OAS, des alternances de la 4e République qui les ont mouillés dans un même fleuve de sang. Et les gaullistes, donc, ils ne sont pas absents sur les lignes de l'acte d'accusation. N'oublions pas, en mai et juin 1945, les 45 000 morts des massacres de Sétif, Guelma et Kerata, le général étant au pouvoir. Puis, le retrouvant en 1958, alors que les grottes d'Algérie fumaient toujours, comment, après tout cela, imaginer que le monde politique va dresser le crêpe noir du deuil sur son passé ? Pour donner une deuxième mort aux victimes algériennes, une rafale d'amnistie, murailles contre la vérité, vont ponctuer notre droit. D'abord en 1962, les accords d'Évian, puis les récidives en 1964, 1966 et 1968, pour voir Mitterrand planter le dernier clou en 1982, là où il donne le pardon aux putschistes d'Alger, aux héros de l'OAS. Étonnons-nous alors qu'un simple documentaire soit interdit de diffusion par la télévision d'État, mais aussi dans une salle de cinéma du Quartier Latin. Une fois pour toutes, nous devons en rester au bienfait de la colonisation, concept promu par Raffarin et tamponné Chirac par un article de loi du 23 février 2005. Ignoble baliverne qui fait encore le miel des experts qui exercent leur magistère sur les chaînes d'information, entre guillemets, beaucoup de guillemets, lors de débats, toujours entre guillemets, déshonorants, où la place de celui qui pourrait dire la vérité est celle du mort. Alors on daube sur cette Algérie ingrate, alors que la colonisation l'a fait passer du stade cloaque, version Zemmour, à l'usage des routes et chemins de fer, uniquement construit pour le bénéfice du commerce colon, si l'on accepte l'explosion de honte exprimée par un Jean-Michel Apathy trop las du sinistre mensonge, le curseur est aujourd'hui calé au point Retailleau, célèbre penseur de la philosophie ventre à choux. Comme celle de Troyes, la guerre d'Algérie n'a donc pas eu lieu, et l'on n'observe aucune retenue, pour raison de mémoire, chez les propagandistes de la foi démocratique brandis comme un fouet qui fustige le régime d'Alger. Des hommes et des femmes assignés à oublier un passé de souffrance et qui méritent que se poursuive la leçon coloniale. Mieux, entre 1991 et 2000, alors que des fous d'Allah, nés des entrailles de Ben Laden et poussés par l'Occident, attaquaient la République, des moralistes français ont fait avaler à la croyance hexagonale l'horrible farce du « qui du qui ?», qu'en réalité, les Algériens s'exterminaient entre eux sans raison, comme d'autres aiment à tuer le temps. Aujourd'hui, des écrivains néocolonisés, donc plumes françaises, continuent d'alimenter le brasier franco-algérien, oubliant celui des grottes et le pardon attendu de la France, semblable à celui exprimé par le Royaume-Uni après la répression des Momos du Kenya et ses 100 000 morts dans les années 1950. Mais le pardon français reste figé, statut de sel, puisque de 1830 à 1962, nous n'avons rien vu en Algérie. Voilà. Donc, c'était un texte que je trouve absolument formidable de ce journaliste international, Jacques-Marie Bourget, qui nous a donné l'autorisation d'utiliser ce texte. Et je crois que c'est tout à fait important que nous puissions le faire. C'est un texte tout à fait merveilleux. Alors, nous allons tout à l'heure écouter le choix musical de cette chronique. J'ai choisi la chanson « Le déserteur » interprétée par Boris Vian, pour de multiples raisons, la principale étant que cette chanson a été interdite pendant la guerre d'Algérie. Nous revenons donc à ces mesures donc de répression et de censure qui accompagnent toutes les périodes de guerre et même avant que les guerres n'éclatent. Et donc Boris Vian, qui a écrit le texte de la chanson « Le déserteur », et donc c'est son interprétation qu'on va écouter tout à l'heure, a subi effectivement le même sort, puisque cette chanson a été interdite pendant la guerre d'Algérie. Cette chanson a été écrite bien avant les événements de guerre, enfin bien avant, a été écrite en 1954, alors que l'actualité à ce moment-là était focalisée sur la question donc de l'Indochine. Et des députés de l'époque avaient demandé l'interdiction de cette chanson. Elle avait été d'ailleurs chantée que par un seul interprète, je crois, qui était Mouloudji, et qui avait même demandé à Boris Vian d'en modifier certaines paroles, qu'il trouvait sans doute un peu trop pointues à son goût. Mais il était le seul à accepter de la chanter. Et Boris Vian a écrit une lettre à M. Paul Faber, qui était le responsable, en quelque sorte, du groupe des députés qui voulait faire interdire cette chanson. Et voilà ce qu'il a écrit. « Monsieur, vous avez bien voulu attirer les rayons du flambeau de l'actualité sur une chanson fort simple et sans prétention, Le Déserteur, que vous avez entendu à la radio et dont je suis l'auteur. Vous avez cru devoir prétendre qu'il s'agissait là d'une insulte aux anciens combattants de toutes les guerres passées, présentes ou à venir. Vous avez demandé au préfet de la Seine que cette chanson ne passe plus sur les ondes. Ceci confirme à qui veut l'entendre l'existence d'une censure à la radio, et c'est un détail utile à connaître. » Je regrette d'avoir à vous le dire, mais cette chanson a été applaudie par des milliers de spectateurs, et notamment à l'Olympia pendant 3 semaines et à Bobino pendant 15 jours, depuis que Mouloudji la chante. Certains, je le sais, l'ont trouvée choquante. Ils étaient très peu nombreux et je crains qu'ils ne l'aient pas comprise. Voici quelques explications à leur usage. De deux choses l'une. Anciens combattants, vous battez-vous pour la paix ou pour le plaisir? Si vous vous battiez pour la paix, ce que j'ose espérer, ne tombez pas sur quelqu'un qui est du même bord que vous et répondez à la question suivante. Si l'on n'attaque pas la guerre pendant la paix, quand aura-t-on le droit de l'attaquer? Ou alors, vous aimiez la guerre et vous vous battiez pour le plaisir? C'est une supposition que je ne me permettrai même pas de faire, car pour ma part, je ne suis pas du type agressif. Ainsi, cette chanson qui combat contre ce contre quoi vous avez combattu. Ne tentez pas, en jouant sur les mots, de la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas de bonne guerre. Car il y a de bonne guerre et de mauvaise guerre. Encore que le rapprochement de bonne et de guerre soit de nature à me choquer, moi et bien d'autres, de prime abord, comme la chanson a pu vous choquer de prime abord. Appellerez-vous une bonne guerre celle que l'on a tenté de faire mener aux soldats français en 1940 ? Mal armés, mal guidés, mal informés, n'ayant souvent pour toute défense qu'un fusil dans lequel n'entraient même pas les cartouches qu'on leur donnait. Entre autres, c'est arrivé à mon frère aîné en mai 1940. Les soldats de 1940 ont donné au monde une leçon d'intelligence en refusant le combat. Ceux qui étaient en mesure de le faire se sont battus et fort bien battus. Mais le beau geste qui consiste à se faire tuer pour rien n'est plus de mise aujourd'hui que l'on tue mécaniquement. Il n'y a même plus de valeur de symbole si l'on peut considérer qu'il l'est tué en imposant au moins au vainqueur le respect du vaincu. D'ailleurs, mourir pour la patrie, c'est fort bien. Encore faut-il ne pas tous mourir, car où sera la patrie? Ce n'est pas la terre, ce sont les gens, la patrie. Le général de Gaulle ne me contredira pas sur ce point, je pense. Ce ne sont pas les soldats, ce sont les civils que l'on est censé défendre. Et les soldats n'ont rien de plus pressé que de redevenir civils, car cela signifie que la guerre est terminée. Au reste, si cette chanson peut paraître indirectement visée une certaine catégorie de gens, ce ne sont à coup sûr pas les civils. Les anciens combattants seraient-ils des militaires? Et voudriez-vous m'expliquer ce que vous entendez, vous, par anciens combattants? Homme qui regrette d'avoir été obligé d'en venir aux armes pour se défendre, ou homme qui regrette le temps où l'on combattait? Si c'est l'homme qui a fait ses preuves de combattant, cela prend une nuance agressive. Si c'est l'homme qui a gagné une guerre, c'est un peu vaniteux. Croyez-moi, ancien combattant, c'est un mot dangereux. On ne devrait pas se vanter d'avoir fait la guerre, on devrait le regretter. Un ancien combattant est mieux placé que quiconque pour haïr la guerre. Presque tous les vrais déserteurs sont des anciens combattants, qui n'ont pas eu la force d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin du combat, et qui leur jettera la pierre? Non, si ma chanson peut déplaire, ce n'est pas à un ancien combattant, cher monsieur Faber. Cela ne peut être qu'à une certaine catégorie de militaires de carrière. Jusqu'à nouvel ordre, je considère l'ancien combattant comme un civil heureux de l'être. Il est des militaires de carrière qui considèrent la guerre comme un fléau inévitable et s'efforcent de l'abréger. Ils ont tort d'être militaires, car c'est se déclarer découragé d'avance et admettre que l'on ne peut prévenir ce fléau. Mais ces militaires-là sont des hommes honnêtes, bêtes mais honnêtes. Et ceux-là non plus n'ont pas pu se sentir visés. Chassez-le, certains m'ont félicité pour cette chanson. Malheureusement, il en est d'autres. Et ceux-là, si je les ai choqués, j'en suis ravi. C'est bien leur tour. Oui, monsieur cher monsieur Faber, figurez-vous, certains militaires de carrière considèrent que la guerre n'a d'autre but que de tuer les gens. Le général Bradley, par exemple, dont j'ai traduit les mémoires de guerre, le dit en toutes lettres. Entre nous, les 9/10 des gens ont des idées fausses sur ce type de militaire de carrière. L'histoire telle qu'on l'enseigne est remplie du récit de leurs inutiles exploits et de leurs démolitions barbares. J'aimerais mieux, et nous sommes quelques-uns dans ce camp, que l'on enseigna dans les écoles la vie de Palinos ou le récit de la construction de Notre-Dame plutôt que la vie de César ou le récit des exploits astucieux de Gengis Khan. La bravache a toujours su forcer le civilisé à s'intéresser à son inintéressante personne où l'attention ne naît pas d'elle-même. Il faut bien que l'on exige, et quoi de plus facile lorsqu'on dispose des armes. On ne règle pas ces problèmes en 10 lignes, mais l'un des pays les plus civilisés du monde, la Suisse, les a résolus, je vous le ferai remarquer, en créant une armée de civils. Pour chacun d'eux, la guerre n'a qu'une signification, celle de se défendre. Cette guerre-là, c'est la bonne guerre, tout au moins la seule inévitable, c'est celle qui nous est imposée par les faits. Voilà, c'était la lettre donc qu'avait écrite l'auteur de la chanson que nous allons écouter, Le Déserteur, Boris Vian, à M. Paul Faber, député, qui réclamait l'interdiction de sa chanson. Et par les temps qui courent, on peut se demander si la chanson de Boris Vian ne va pas être à nouveau interdite. On écoute Le Déserteur.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez.
Merveilleuse chanson de Boris Vian. Alors, je vous rappelle le rendez-vous important, samedi 22 mars, 11h, devant l'Arbre de la Liberté, rassemblement et manifestation contre le racisme et l'extrême droite. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique, lundi prochain, toujours sur RLP en direct.
Allez, donnez le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.